J'espère que vous êtes toujours bien dans la retraite, même si ça commence à sentir l'écurie, comme on dit, c'est-à-dire la sortie. Donc, comme on dit, les chevaux sont impatients quand ils sentent l'écurie, paraît-il. Alors, sinon, ce n'est pas encore fini, donc il faut aller jusqu'au bout. Le bon Dieu donne des grâces jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Donc, ne sortez pas de la retraite avant de l'avoir terminée. Alors, vous savez que le but de cette retraite, c'est d'être plus proche de Dieu, évidemment, hein, de grandir dans cette union bon Dieu. Donc, je pense, on espère que votre intelligence est un peu plus éclairée grâce aux instructions. Donc, on a vu la grandeur, la bonté de Dieu, ce plan qui a été détruit malheureusement par le péché, et notre Seigneur vient nous racheter. Et pour cela, il institue les sacrements pour nous donner la grâce, vie de Dieu en nous. Alors la question qu'on se pose toujours, évidemment, c'est comment correspondre à ce plan de Dieu, à cet amour de Dieu pour nous. Eh bien, ça va être à notre volonté maintenant d'agir, en suivant les lumières du Saint-Esprit. Et pour cela, concrètement, eh bien, il va falloir prendre des résolutions, c'est-à-dire des règles pratiques qui vont nous aider à entrer dans ce plan de Dieu. C'est-à-dire à corriger ce qui ne va pas, ou à pratiquer telle ou telle vertu qui vont nous aider à rentrer dans le plan de Dieu. Donc tout simplement, cette instruction a pour but de commenter un peu cette feuille que vous avez reçue, je pense, sur les résolutions, de donner quelques conseils pratiques. Donc évidemment, il faut... Vous avez certainement des lumières déjà dans toutes vos prières, dans les entretiens que vous avez pu avoir avec les prêtres, etc. Et ces lumières, bien, ont pu être tel défaut à corriger, par exemple. Tiens, c'est vrai, j'ai tel défaut, j'ai telle chose, bon, ce qui ne va pas. Ou alors j'ai tel bien à accomplir, il faut que je fasse telle chose. Ou alors j'ai plutôt tel mal à omettre, telle pratique à améliorer, tel effort de volonté à faire, etc. Eh bien, il faut vous donner les moyens pour mettre en pratique ces lumières. Ces lumières que vous avez reçues, peut-être à l'oraison, à la chapelle, etc., en priant votre chapelet, eh bien, il faut les mettre maintenant en pratique. Parce que si vous ne prenez pas de résolution précise, eh bien, la retraite risque de n'avoir aucun effet durable, d'être uniquement un feu de paille. Et bon, peut-être vous aurez comme souvenir, c'était une semaine de vacances. Très agréable, 5 jours, pas d'enfants, pas de mari, au contraire, le calme, le silence, les petits oiseaux qui chantent. C'est magnifique ces vols d'hirondelles d'ailleurs ici, j'admire, c'est magnifique à voir voler les hirondelles, c'est splendide. Bref, donc il fait beau en plus, enfin vraiment c'était paradis quoi, 5 jours de paradis. Bon, mais c'est pas ça quand même le but d'une retraite. Hein. Alors essayez déjà, vous avez quelques conseils généraux qui vous ont été donnés. Alors, il faut choisir non pas ce qui nous flatte ou ce qui nous plaît, mais il faut choisir ce qui nous contrarie, c'est-à-dire ce qui contrarie notre défaut dominant. Il faut aller à l'essentiel. Donc, si par exemple, l'essentiel, vous êtes coléreuse, vous êtes impatiente, bon, ne prenez pas comme résolution « Bon, maintenant, le matin, je mettrai 2 sucres et demi au lieu de 3 dans mon café. » Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Hein? Non, ça sera la colère. Il va falloir voir comment combattre cette colère. Donc, essayez de voir ces bonnes résolutions qu'il faut prendre. Alors, premier, peut-être aussi, si vous n'avez pas l'habitude, ne multipliez pas les résolutions. Ça peut être un piège aussi. Par exemple, première résolution, je me lève à 5 heures. Deuxième, je fais 1 heure d'oraison. Troisième résolution, lever de la famille, 6h30. 7h, tout le monde à genoux, prière jusqu'à 8h. 8h, petit déjeuner. Et puis comme ça, vous passez toute la journée. Ensuite, 63e résolution, extinction des feux à 23h, minimum. Bon. Vous n'en tiendrez aucune, ça c'est clair. Donc non. Tenez d'abord, première chose, compte de votre état de vie concret. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire après la retraite? Quel état de vie vous êtes? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez de jeunes enfants ou pas? Est-ce que vous êtes veuve? Est-ce que vous êtes une grand-mère? Etc. Donc, déjà, il faut bien cibler à ce que vous faites. Hein. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc, choisir peu de résolutions, mais les bonnes, celles qui nous sonnent vraiment. Et puis ensuite, évidemment, s'y tenir coûte que coûte. Bon, de manière quantitative, il ne s'agit pas forcément de nouvelles pratiques, hein, encore une fois, ou de nouveaux exercices de piété. Il peut s'agir tout simplement d'améliorer tel point. Je ne sais pas, mieux faire ses prières, par exemple, ou éviter telle occasion de péché. Hein, si vous savez que vous péchez toujours, si vous, je ne sais pas, tiens, avec telle personne que je rencontre, on n'arrête pas de refaire le monde, on critique tout le monde. Bon, là, il y a peut-être un problème à voir. À dire, bah, ou je ne vois plus cette personne parce qu'on est en train à chaque fois de pécher contre la charité. Ou alors, bah, non, maintenant c'est fini. Enfin bref. Ou si c'est de pécher plus grave avec telle personne, bah, non, attention, je ne la vois plus, etc. Donc, vous voyez, évitez les occasions, là aussi. Il faut voir quelles sont les occasions qui peuvent vous pousser à commettre telle ou telle faute. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses forcément extraordinaires qu'il faut faire. Et puis, on verra, il y a peut-être tel sacrifice à faire sur tel esclavage. Hein, donc, vous avez déjà vu la liste. Il y a peut-être des choses à supprimer. Alors, bon, c'est peut-être un sacrifice qu'il faut faire. Alors, oui, bon, peut-être, on va voir quelques-uns. Ensuite, notez ces résolutions. Bon, vous avez une feuille, c'est déjà ça. Et puis, arrivez chez vous, ne la mettez pas à la poubelle, évidemment. Non, il faut essayer d'y repenser de temps en temps. Ça peut être l'occasion, quand on fait son examen de conscience, voir est-ce que... Ou alors, une fois par mois, par exemple, on repense. Et tiens, je vais relire ma feuille. Oh, ah, j'ai déjà oublié ça. Bon. Donc, vous voyez, essayez de faire des choses assez concrètes. Et puis, en tout cas, avant de partir, pour éviter de faire d'erreurs, faites contrôler vos résolutions par un prêtre. Justement, qu'on voit que vous n'en avez pas pris 50. Et puis, encore une fois, voir si elles sont bien ciblées. Bon, après aussi, je pense qu'il est bon d'en parler au prêtre qui vous suit, ou vous connaissez un peu mieux, votre confesseur. Bon. Parce que nous, ici, on peut vous dire de manière générale, voilà, oui, effectivement, ça paraît raisonnable. Mais bon, peut-être les prêtres qui vous connaissent encore mieux peuvent mieux vous conseiller par la suite. Voilà, donc la liste qui suit n'est pas exhaustive, hein, évidemment, elle est purement indicative. Donc, et puis les choses qui ont été signalées, c'est plus ou moins grave. Hein, il y a des choses, elles n'ont pas toutes la même importance. Hein, donc encore une fois, ne prenez pas tout. Hein, et non, vraiment, ce qui convient à votre propre situation. Alors, on commence bien sûr par la vie intérieure, la vie de prière. Ça, c'est évidemment fondamental. Ça, c'est, il faut d'abord Dieu. Ça, c'est clair. Bon, prière du matin, prière du soir. Bon, vous voyez si vous le faites bien. Ça, c'est, bon, je n'insiste pas. Manière de la faire, est-ce que c'est l'expédié ou pas? Est-ce que en 15 secondes, c'est fini ou pas? Donc, bon, vous voyez, effort de recueillement. Bon, vous voyez ce que vous avez à faire, l'offrande de la journée, etc. Bien. Prière en famille, je veux dire spécialement le soir. Bon, c'est vrai, peut-être le matin, c'est pas toujours facile parce qu'il y a peut-être différents horaires de départ. Mais pensez-y, hein, prière en famille, il y a des grâces particulières. Hein, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il y a des grâces particulières de faire la prière en famille. Et en même temps, c'est bien pour les enfants de voir les parents prier plutôt que d'aller leur dire « va faire ta prière ». Dans ta chambre, et puis les enfants ne voient jamais leurs parents prier. Ça, c'est pas bon, évidemment. Donc, au contraire, avoir toute la famille en prière le soir, ça, c'est une belle chose. Et puis, apprenez aussi à prier à vos enfants. Alors, et gardez le bon sens aussi. De temps en temps, on est un peu effaré et ça manque de bon sens. C'est clair que le chapelet, si vous pouvez le dire en famille, c'est bien, mais n'imposez pas un chapelet à votre enfant qui a 4 ans, 5 ans. Ah, il bouge tout le temps. Mais c'est évident qu'il bouge tout le temps. Mais on ne va pas faire réciter un chapelet à un enfant de 4 ans. Non, il faut un peu de bon sens. Le fait de lui réciter, bien sûr, une partie, quelques jours, salut Marie, mais c'est tout. Et après, au bout de 2 minutes, il va bouger partout. Mais c'est normal, c'est son âge. Ne lui demandez pas quelque chose que vous, déjà adulte, vous avez du mal. Alors, non, pas à 4 ans. Donc, gardez le bon sens, si vous voulez. Ah, je veux que mes enfants soient pieux. Bon, on est tous d'accord, ça c'est très bien, mais prenez les moyens aussi. La grâce ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature. Il faut rester au niveau de la nature. Alors évidemment, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans va lui demander un peu plus, un enfant de 6 ans un peu plus, 7 ans un peu plus. Voilà, il faut y aller graduellement. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un des articles dans Fidélitaire, justement, là-dessus, pour faire prier les enfants, comment faire prier les enfants. Bon, ben, relisez ça, hein, c'est bien. Mais par pitié, gardez quand même le bon sens. Mais apprenez en tout cas à vos enfants à prier. Et c'est vrai que c'est sur les genoux de la maman hein, que l'enfant commence à apprendre à faire son signe de croix, à faire un baiser à Jésus, enfin vous connaissez tout ça. Et ça marque. Et ça marque. Hein, parce que l'enfant, après, ça devient vraiment connaturel, si vous voulez. Donc ça, il faut le faire, bien sûr. Mais encore une fois, graduellement, en fonction de l'âge de l'enfant. Ensuite, on a l'oraison. Bon, là, on en a parlé. Donc, si vous pouvez le faire, c'est très bien. C'est comme je vous ai donné les avantages hein, de l'oraison. Donc, faites-le, hein, ça, c'est, si c'est possible. Après, c'est un peu chacun d'entre vous avec votre journée, votre emploi du temps. En tout cas, quelque chose qui est certain, parce que là aussi, souvent, on a des mères de famille qui nous disent « Ah, c'est impossible de prier ». Depuis le lever de mes enfants qui commencent à brailler à 7h du matin jusqu'à leur coucher à 8h du soir, j'arrête pas. Donc j'ai l'impression c'est impossible de prier. On est pris, il y a toutes les affaires de la maison à faire tourner, etc. C'est impossible de prier. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que vous pouvez, tout ce que vous faites, eh bien, si vous l'élevez, si vous l'offrez, qu'est-ce que c'est que la prière ? On en a parlé. C'est l'élévation de notre âme vers Dieu. Quand vous faites la vaisselle, eh bien, offrez cela au bon Dieu. Mon Dieu, je vous offre ça. Très Sainte Vierge Marie, en union avec vous. Ben voilà, votre vaisselle devient une prière. Vous faites du repassage, pareil. Ben, mon Dieu, je vous l'offre. Vous lavez par terre, eh bien, mon Dieu, je vous l'offre. Tiens, Notre-Dame, en union avec vous. Ben, ces petites choses, c'est rien, mais ça transforme votre activité en prière. Et il existe, peut-être vous connaissez, la prière de la mère de famille... Il y a la prière de la cuisine, de la cuisinière, il y a plusieurs sortes de prières comme ça. Eh bien, ça vous aide à sanctifier chacune de vos actions. Même si vous êtes étudiante et que vous avez beaucoup de travail, etc., bon, bah, de temps en temps, une invocation au bon Dieu, on offre son travail. Si vous, vous sanctifiez votre journée. Donc, je crois, il n'y a pas d'excuse pour dire, bah, j'arrive pas, non, on offre, tout simplement. Vous êtes malade, eh bien, c'est autre chose, c'est une autre façon de prier. Un simple regard vers le crucifix, c'est une prière. On est malade, on souffre de partout. C'est vrai que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va dire nos trois rosaires ou tous les psaumes, lire les 150 psaumes. Non, ce n'est pas possible. Alors, eh bien, un simple regard vers le crucifix. On offre nos souffrances et c'est une prière. Donc, vous voyez, on peut vraiment prier toute la journée. Parce qu'on offre notre travail. Donc, si vous voulez, si vous vous plaignez d'être débordé, c'est vrai, vous l'êtes sans doute, mais encore une fois, en offrant ce que vous vous faites, ça devient une prière. Donc, vous voyez, c'est déjà comme ça de garder une vie d'oraison. Bon, après, c'est beaucoup mieux, évidemment, si vous pouvez vraiment vous réserver un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour faire oraison le matin. Bon, très bien, ça, c'est, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est évident. Bon, je passe le chapelet, bien sûr, si vous avez l'habitude, ben, continuez-le. Si vous ne l'avez pas, alors là aussi, commencez peut-être progressivement. Si vous ne savez pas dire votre chapelet, vous ne l'avez jamais fait, bon, ben, à l'issue de cette retraite, vous dites, je commence par une dizaine. Maintenant, chaque jour, je dis une dizaine. Et puis, dans un mois, je passe à deux. Et puis ensuite, dans un troisième mois, je passe à trois. Ça, vous pouvez y aller progressivement. Ou alors, vous dites tout de suite votre chapelet entier. Bon, ben, très bien. Mais je pense dans ces 150e anniversaire de Notre-Dame de Lourdes, où on voit la Sainte Vierge prier son chapelet avec Sainte Bernadette, c'est peut-être le moment ou jamais de prendre cette résolution. Et puis, bon, l'année dernière, c'était les 90 ans de Fatima, donc là aussi, Notre-Dame du Rosaire. Donc c'est non seulement le chapelet, mais le rosaire. Bref, donc pensez à ça. Vous voyez, il y a des circonstances comme ça. On voit Notre-Dame à Lourdes, à Fatima, effectivement, elle prie le rosaire, le chapelet. Et nous a dit de le prier. Donc, si la Sainte Vierge nous dit, c'est certainement une bonne chose. Bon, Benedicite Angelus, les prières avant, le repas, après le repas, bien sûr, faites-le. Ne soyez pas comme des païens et qui mangent comme ça, sans penser de qui ils tiennent leur repas, leur nourriture. Donc ça, je crois qu'il est bien de l'instituer en famille. Si ce n'est pas le cas, bah faites-le en famille, c'est très bien. Bon, lecture spirituelle quotidienne, ou du moins régulière, livre d'écriture sainte, les évangiles, vie de saint, des auteurs spirituels. Bon, là, ici, vous avez des exemples. Donc là aussi, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas forcément marquées, mais je vous donne d'autres idées. Par exemple, pratiquer les premiers vendredis du mois. Alors, je vous rappelle tout simplement cette apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, donc au XVIIe siècle, 1675, voilà, c'est ça. Eh bien, c'est résumé, toutes ces promesses au Sacré-Cœur, là aussi. Vous voyez, ce Sacré-Cœur qui nous pardonne, qui est si bon pour nous, eh bien, est-ce que nous n'allons pas faire quelque chose pour lui? Vous voyez, notre Seigneur, promesse faite par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie en faveur des personnes qui ont une vraie dévotion à son divin cœur. Alors, elles sont résumées comme ça. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Bon, c'est déjà bien. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Quand peut-être on a du mal à se confesser, on a fait peut-être des fautes graves, etc. Eh bien, pensez au Sacré-Cœur de Jésus, plein de miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Si vous êtes un peu tiède, un peu tiédasse, eh bien, au contraire, si vous voulez devenir fervente, pensez au Sacré-Cœur. Les âmes ferventes, alors c'est peut-être votre cas, s'élèveront à une grande perfection. Ah, donc montez encore. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur, ne sera jamais effacé. Et puis enfin, la dernière. Dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale. D'où ces 9 premiers vendredis du mois. Alors bien sûr qu'il s'agit d'une bonne communion, évidemment. Donc ça peut supposer aussi une confession avant. Donc vous voyez les promesses du Sacré-Cœur. Donc il ne faut pas négliger. Si vous pouvez le faire, eh bien, calculez 9 vendredis, 9 premiers vendredis du mois, et puis vous et avoir la messe ce jour-là, bien faites-le. Donc l'intronisation du Sacré-Cœur, on peut le faire dans les familles. N'oubliez pas aussi, bien sûr, les 5 premiers samedis du mois. Là, on passe à la Sainte Vierge, hein, donc demandée par Notre-Dame de Fatima. Alors vous allez dire, c'est plus simple, il n'y en a que 5. Ouais, elle est bonne, la Sainte Vierge. Hein. Elle trouve peut-être son fils, « Oh, tu as exagéré, quand même 9. Moi, j'en mets 5. » Alors, 5 premiers samedis du mois. Donc, quelles sont les conditions? Bien sûr, la Sainte Vierge attache, elle, donc, toutes les grâces aussi dont nous avons besoin, hein, pour, au moment de notre mort. Et donc, ces 5, elle a précisé ces conditions à Sœur Lucie. Donc, il faut ce jour-là se confesser. Bon, disons, la confession peut être dans les 8 jours qui précèdent ou qui suivent. Hein, donc, c'est la loi un peu générale. Communier, donc communier ce jour-là. Dire son chapelet ce jour-là et faire un quart d'heure de méditation, d'oraison sur les mystères du rosaire, sur un des mystères du rosaire. Tout ça, ces 4 conditions, les faire dans l'idée, dans l'intention de réparer les offenses faites au cœur immaculé de Marie, donc dans un souci de réparer, de consoler Notre-Dame. Alors, je connais des chapelles et qui se font, où on fait ça en chapelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la messe du premier samedi du mois, avant il y a possibilité de se confesser, et puis après la messe, il y a la méditation qui est organisée pour les fidèles. Bon, moi-même je l'ai fait, et puis je sais qu'il y a d'autres chapelles qui le font. Bon, si vous avez la grâce comme ça d'être à côté d'une chapelle où on fait ça, ben, c'est très bien. Dans ce cas-là, vous n'avez presque plus rien à faire. Vous allez le premier samedi du mois à la chapelle, vous pouvez vous confesser, vous avez la messe communion, on dit le chapelet, et il y a le quart d'heure d'oraison. Donc faites tout, ça c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, ben, essayez de le faire chez vous, Et dans un cas même, Sœur Lucie avait demandé ça à Notre-Dame, et la Sainte Vierge a même accepté, mais ça, il faut l'autorisation d'un prêtre, que quand on ne peut pas faire cela un samedi, ça soit reporté au dimanche. Donc si par hasard vous êtes dans un coin complètement perdu où il n'y a pas de messe le premier samedi du mois, eh bien vous pouvez demander au prêtre de remplir ces quatre conditions le dimanche. Donc d'utiliser la messe du dimanche pour cela. Eh bien profitez-en. Donc faites-le. Donc faire ainsi cette dévotion des premiers samedis du mois. Ensuite, bon, vous pouvez, si vous voulez, appartenir à des confréries, à des tiers-ordres. Bon, après, c'est personnel. Mais bien sûr, là aussi, vous pouvez le faire. La vie sacramentelle, donc bien sûr importante aussi. Bon, la messe, bien sûr, fidélité à la messe dominicale. Bon, on peut s'en dispenser pour des raisons graves, évidemment. Si on est malade, ben oui, ça c'est une dispense légitime. Et si vraiment on ne peut pas aller à la messe parce que, bon, garder des enfants malades, c'est une dispense légitime aussi, évidemment. Et si on a un réel empêchement pour aller à la messe le dimanche, dans ce cas-là, on sanctifie le dimanche, par exemple, en lisant sa messe dans le missel, en lisant son chapelet, en faisant une communion spirituelle. Donc toujours bien sanctifier le dimanche. Et puis pensez aussi, évidemment, à la fidélité à la messe traditionnelle, à la vraie messe. Essayez de, si vous ne savez pas trop pourquoi il faut n'aller qu'à la messe traditionnelle, ben essayez de vous former, de lire pourquoi, qu'est-ce qu'on reproche à la messe nouvelle. Ben c'est un problème de foi, tout simplement. Il suffit de rappeler les paroles des cardinaux Bacchi et Ottaviani, qui avaient dit cette réforme liturgique s'éloigne dans l'ensemble, comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe. Tout est dit là-dedans. Donc il y a eu des études théologiques qu'on a fait, effectivement, et d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, le but était vraiment de protestantiser la messe. Donc on ne peut pas aller à une messe qui a une saveur protestante, ce n'est pas possible. Petit à petit on peut perdre la foi. Et enfin, je ne veux pas dire, j'ai des exemples, mais des personnes qui ont toujours pratiqué et qui pratiquent toujours, eh bien avant, mais bon, elles sont des personnes maintenant un peu âgées, et quand j'ai eu l'occasion de discuter avec elles, elles ont changé la notion de la messe. Pourtant, elles ont connu la messe traditionnelle dans leur enfance. Elles ont évolué. Et maintenant, elles tiennent des théories qui sont protestantes, si vous voulez. Le prêtre, président, l'assemblée, etc. Eh bien, insensiblement, elles ont changé. La foi a changé. La foi dans la Sainte Eucharistie a changé. Eh bien, on voit bien, on s'habitue. Donc c'est pour ça qu'on demande, non, on n'assiste pas. Bon, si par civilité, pour un mariage ou un enterrement, on est obligé d'aller, parce qu'autrement ça ferait un drame dans la famille ou je ne sais pas quoi, bon, on y va, mais on n'y communie pas. On reste au fond, on prend son missel, on prie, on prend son chapelet, et puis voilà. Parce qu'il s'agit encore une fois d'un problème de foi, il ne s'agit pas d'un problème de sensibilité. Ce n'est pas parce que je préfère le latin, puis il y a de l'encens, ça sent bon, et puis voilà, et je vais à la messe traditionnelle. Ce n'est pas ça les raisons. Ce n'est pas un problème de sensibilité, c'est un problème de foi. Donc n'hésitez pas à vous instruire, à lire les livres, pourquoi la fraternité dit cela. On vous dit, mais si c'est valide. Ah ben si, le prêtre, je connais, il est pieux, si, il y a vraiment la présence réelle, si, c'est valide. Mais ce n'est pas parce qu'une messe est valide qu'elle est bonne, qu'elle est licite. On va vous dire, tiens, ici, il y a une boisson. Ah ben oui, il y a un peu de nicotine dedans, il y a un peu de poison, mais ce n'est pas grave, il n'y en a qu'un tout petit peu. Vous pouvez boire. Vous allez boire ? Non. Eh bien, même si cette messe est empoisonnée, ben j'y vais pas. Enfin, donc voilà, si vous voulez, fidélité à cette messe. Encore une fois, bien connaître les raisons, pourquoi. Il ne s'agit pas de sentiments. Bon, nos communions, les confessions, est-ce qu'on se confesse régulièrement ? Là aussi, peut-être, il faut peut-être réduire les délais. Bon, quel délai faut-il pour se confesser ? Bon, je veux dire, déjà, le cas général, si par malheur on est tombé dans une faute grave, ben, le plus vite possible. Ça, c'est la règle générale. D'ailleurs, si on a la contrition, ça inclut en général le désir de se confesser. Donc, ne pas attendre pour se confesser. Autrement, eh bien, j'allais dire, pour moi, une vie chrétienne, j'allais dire, relativement normale, il faudrait au moins une fois par mois. Si vous voulez être normal, se confesser une fois par mois. Si vous voulez mener une vie chrétienne un peu plus fervente, dirais, c'est bien tous les 15 jours. Bon, après, si vous voulez plus, vous pouvez toujours. Mais disons, une vie fervente, vous voulez vraiment une vie fervente, et puis c'est pas trop difficile pour vous de se confesser. Bon, je sais bien, tout dépend où vous habitez, si le prêtre est proche ou pas. Bon, mais il y a plusieurs conditions. Mais, voilà, je vais dire tous les 15 jours, chrétienne, vie chrétienne fervente, mais je vais dire autrement, une vie normale, ça serait au moins une fois par mois. Bon, après, ça dépend de chacune d'entre vous, c'est à vous de voir, encore une fois, la disponibilité des prêtres ou pas. Bien, ensuite, vos vertus à pratiquer. Alors, je vais plutôt commencer par les esclavages à supprimer. Je veux dire, qu'est-ce qui est négatif ? On supprime d'abord ce qui est négatif et ensuite on construit. Alors, esclavage à supprimer. Bien, alors, de manière générale, les occasions de péché ou mauvaise fréquentation dont il faut se couper. Alors là, ce que je vous l'ai dit déjà, ça, je crois, il faut... C'est clair. Si vous avez une fréquentation mauvaise qui vous fait commettre des péchés, alors là, il faut couper. Ça, c'est clair. Autrement, vous n'êtes pas sincère. Non. Donc, encore une fois, telle personne, telle, je sais pas, telle occasion, bon, on va en voir des occasions. Dans ce cas-là, il faut couper ça. Bien, on parle de télévision. Évidemment, ça peut être un danger moral, hein, c'est clair, surtout pour les enfants. Ah non, mes enfants, il y a un code, rassurez-vous, ils ne regardent pas. Alors vraiment, il y a des parents qui se font des illusions. Hein. Là, je peux vous dire, ayant été dans une école, et puis aussi comme confesseur, parce que rassurez-vous, les enfants, ils ont vite fait de trouver le code. Hein. Ça, je peux vous dire, ils sont beaucoup plus doués que vous. Hein. Allez, hop, c'est bon. Papa, maman sont partis. Ils croient que la télévision ne peut pas les allumer, mais voilà, moi, je sais faire. Bien. Donc, attention à ça. Non, supprimer là, vraiment, ça peut être des occasions de péché. Mais alors, par contre, quand on supprime quelque chose, il faut remplacer. Eh bien, remplacer par des jeux en famille. Et ça, c'est très formateur, ça soude les familles. La télé, on est tous passifs devant, et tout comme ça. Hein. Non, des jeux en famille, d'abord, on connaît mieux les caractères. On voit tout de suite les caractères. Hein, et puis, ça forme, et puis ça unit la famille. Non, ça remplacer par des détentes saines. Bon, ensuite, évidemment, je ne parle pas de mauvais spectacles, les sorties mondaines dangereuses, inutiles, etc. Ça, évidemment, le cinéma, attention, hein, surtout aujourd'hui. J'y vais pas, mais il n'est pas difficile. On peut imaginer ce qu'il peut y avoir. Donc, bon. Ensuite, ce n'est pas marqué, mais il faut le rajouter, Internet. Ah si, c'est marqué. Alors, j'ai une ancienne feuille, alors. J'avais marqué à la main. Oui, Internet, c'est... Alors... Je crois qu'il y a une grande distinction à faire, mais ce n'est pas facile. Grande distinction à faire, c'est professionnel ou pas. Il est clair que maintenant, dans le milieu professionnel, on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est évident. Vous voyez, même nous, on l'utilise. Oui, il y a un côté professionnel, vous avez des rapports, je ne sais pas quoi, avec les banques. Maintenant, ça se fait tout par Internet. Donc, une utilisation professionnelle, indispensable, oui. Ça, d'accord. Ensuite, comment ne pas déraper avec Internet ? Je crois, c'est tout simplement dire Internet, occasion ou instance de détente, non. Je n'utilise pas Internet comme de la détente. Parce que c'est là où ça glisse, quoi, si vous voulez. On commence à faire n'importe quoi. Comme disait quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense, enfin, j'ai pas de difficile à croire. Internet, de toute façon, c'est du 90%, c'est du porno. Bon, je sais pas le pourcentage, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai, comme confesseur, on le voit. Combien c'est d'occasions de péché pour, surtout pour des jeunes et puis même pour des moins jeunes. Bon, j'allais dire, ça touche peut-être plus les hommes, malheureusement. Ils sont plus tentés dans ce domaine-là. Vous, les femmes, en général, un peu moins. Mais ça peut vous arriver aussi. Non, vous, peut-être, côté féminin, ça va être plus les chats, ça va être plus les discussions, ça va être plus les emails pour un rien du tout, ça va être les futilités, ça va être les modes, les machins, qu'on va perdre du temps à temps fou à chercher des trucs, à discuter avec la copine qui est à l'autre bout du monde, etc. Donc, temps perdu, futilité, etc. Non, et ça, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est clair. C'est comme les SMS, les machins. Bon, si vous voulez, je crois qu'il faut essayer d'avoir la force de faire cette distinction entre ce qui est nécessaire, encore une fois, utile. Bon, il faut que je prenne un billet de train. Bon, ok, SNCF.com, alors d'accord, ok. Donc, bon, très bien, d'accord. Ça, c'est... Ou alors un avion, AirFrance.com, d'accord, ok. Bon, mais... Ou alors consulter mes comptes bancaires. Ok, je ne sais pas quoi, CréditAgricole.com, ok, d'accord. Bon, d'accord, ça, je veux bien. Ça, c'est utile, c'est... Bon, ou alors il faut s'inscrire à la fac. Bon, on est obligé de passer par là. D'accord, ça, ou votre mari, professionnellement, vous-même, quand vous travaillez professionnellement, bah oui, il y a des emails envoyés, d'accord, voilà, d'accord. Mais après, se dire, je pense, il faut se mettre le barrage. Instrument de détente, non, parce qu'il y a trop de dangers de glisser dans des fautes, c'est tout. Et apprenez un bon livre, si vous voulez vous instruire, lisez, ça, c'est sûr, vous en saurez plus. Hein. Bref, ensuite, encore une fois, donc à vous de voir. Mais je crois qu'il faut faire attention. Donc, souvent on disait, vous voyez, laissez Internet au bureau. Ne le prenez pas à la maison. Là, encore une fois, pensez à vos enfants. Et je vous dis, nous, on est confesseurs. On confesse. Et je peux vous dire que, bah, malheureusement, il y a Internet à la maison. Alors, pareil, vous dire, mais moi, je surveille mon fils, et fait qu'en présence de moi. Vous ne faites pas d'illusions. Il y a toujours un moment où vous n'êtes pas là, il y a toujours un moment où vous ne surveillez pas votre enfant. Vous ne faites pas d'illusions. Non, je vous assure. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Donc, si vous voulez, on dit aussi, laissez Internet à la maison, au bureau, hein, pas dans la famille. Je pense que c'est vraiment rare. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut avoir besoin d'Internet dans la famille. Bon, si encore une fois, il faut prendre un billet de train, bon, votre mari le prend dans ses heures libres au bureau, et puis voilà, et terminé. Donc, instrument, l'ordinateur, instrument de travail, oui. Instrument de détente, non. Enfin, je pense que c'est un peu la règle qu'il faut se fixer. Ensuite, bon, cigarette, ça, évidemment. Sachez remplacer, là aussi, si vous en êtes à 2-3 paquets par jour. Bon, enfin, bref. Puis ça coûte cher, maintenant. Hein. Bon, je ne fume pas, donc... mais on attend toujours l'augmentation du tabac. Alors, évidemment, imaginez tout ce que vous dépensez en achetant des cigarettes. Bon, au moins, ça vous paye une retraite ici, hein, dans l'année. Bref, alcool, bon, en général, c'est pas trop le problème des femmes. Bon, quoique, ça peut arriver. Mais bon, c'est peut-être pas trop votre cas. Excès de nourriture, friandises, bon, là, c'est peut-être plus, ça peut vous arriver. Alors là, prenez comme règle, facile, manger à heure fixe et rien entre les repas. C'est pas possible. Bah, ça peut être une petite mortification. Hein, les repas, bon, on peut prendre un petit goûter. Hein, mais entre éviter de grignoter par-ci, par-là, ça peut être une bonne mortification. Alors, oulala, après, j'arrive à un sujet, oulala. Coquetterie et mode. Ouh, je vais mettre mon gilet pare-balles. Bon, parce que c'est toujours très difficile pour un prêtre de parler de coquetterie et de mode. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours deux réflexions qu'on entend. La première, si vous osez faire une remarque sur l'habillement d'une dame, alors ensuite la dame, voilà, je suis encore tombée sur un miso. Ah, je sais bien, de toute façon, les prêtres sont tous misogynes. Donc là, c'est évident, encore un. Bon, donc si on fait des remarques, on se prend ça. Et puis si vous ne faites pas de remarques, c'est-à-dire, non. Moi, j'ai rencontré un prêtre, j'étais en pantalon, il ne m'a rien dit, donc j'ai le droit de mettre un pantalon. Alors, si vous dites rien, ça veut dire que finalement, bah, que le prêtre est d'accord avec la tenue que vous aviez, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors, essayons de progresser. Alors, je crois que le grand principe dans ce domaine-là, c'est tout simplement être une femme chrétienne. Être une femme chrétienne qui cherche à élever les âmes et à donner le bon exemple. Je crois, à mon avis, il faut partir de ce principe-là. Bien sûr, le problème de la mode. Alors, je vais peut-être tout de suite vous lire, comme ça je me réfugie derrière un pape. Courageux, mais pas téméraire. Donc, vous avez quand même Pie XII qui a donné de magnifiques principes. Il donne vraiment les principes. Donc, vous avez un discours, si vous notez les références, vous voyez, ce n'est pas adressé à des hommes, s'est adressé à allocution à la jeunesse féminine d'Action catholique le 22 mai 1941. Bien. Mesure et bon goût. Voilà ce qu'il commence à dire. Le mouvement de la mode n'a en lui-même rien de mauvais. Il naît spontanément de la sociabilité humaine, suivant l'impulsion qui incline à se mettre en harmonie avec ses semblables et avec les habitudes des personnes parmi lesquelles on vit. Dieu ne vous demande point de vivre en dehors de votre temps, de rester indifférente aux exigences de la mode, au point de vous rendre ridicule en vous habillant à l'encontre des goûts et des usages communs de vos contemporaines, sans vous préoccuper jamais de ce qui leur plaît. Le grand sourire. Je ne suis pas obligée de m'habiller comme Sissi, quoi, avec les grandes robes. Hein? Bien, mais on poursuit. Hein? Lorsque les femmes portent des ornements décents, en harmonie avec leur état et leur dignité, lorsqu'elles suivent en cela avec mesure les coutumes de leur pays, alors se parer sera aussi un acte de cette vertu, de la modération qui imprime une mesure dans la démarche, l'attitude, le vêtement et tous les mouvements extérieurs. Dans l'attitude à observer à l'égard de la mode, la vertu tient le juste milieu. Comme toujours, c'est un sommet. Ce que Dieu vous demande est de vous souvenir toujours que la mode n'est ni ne peut être la règle suprême de votre conduite. Que au-dessus de la mode et de ses exigences, il y a des lois plus hautes et impérieuses, des principes supérieurs et immuables qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au gré du plaisir ou du caprice et devant lesquels l'idole de la mode doit savoir abaisser sa fugitive toute-puissance. Je passe un peu. Ce sont les signaux marquants, donc ces principes ont été proclamés par Dieu, etc. Ce sont les signaux marquant les limites au-delà desquelles on ne voit plus apparaître ni fleurir des lys, au-delà desquelles la pureté, la modestie, la dignité, l'honneur féminin n'exhalent plus leur parfum, mais où souffle et règne un air malsain de légèreté, de langage équivoque, de vanité audacieuse, de fatuité, non moins dans le cœur que dans l'habillement. Les principes que saint Thomas énonce touchant l'ornement de la femme et rappelle alors qu'il indique qu'elle doit être l'ordre de notre charité et de nos affections. Le bien de notre âme l'emporte sur celui de notre corps. Et nous devons préférer à l'avantage de notre propre corps le bien de l'âme de notre prochain. Vous voyez, une hiérarchie, notre âme et notre corps. Mais à notre corps, on doit aussi préférer le bien du prochain. Attention. Dès lors, ne voyez-vous pas qu'il existe une limite qu'aucune forme de mode ne peut faire dépasser, une limite au-delà de laquelle la mode se fait source de ruine pour l'âme de la femme et pour l'âme d'autrui. Certaines jeunes filles diront peut-être que telle façon déterminée de se vêtir est plus commode et également plus hygiénique. Mais s'il devient pour le salut de l'âme un péril grave et prochain, elle n'est certainement pas hygiénique pour votre esprit. Il est de votre devoir d'y renoncer. Et si pour un simple plaisir personnel, nul n'a le droit de mettre en péril la vie corporelle des autres, n'est-il pas encore moins licite de compromettre le salut, donc la vie même de leurs âmes? Si, comme certaines le prétendent, une mode audacieuse ne produit sur elles aucune impression mauvaise, que savent-elles de l'impression que les autres en ressentent? Et ça, c'est des réflexions qu'on entend. Moi, ça ne me fait rien. Oh, c'est le problème des hommes si ça leur fait quelque chose. Pie XII répond, que savent-elles de l'impression que les autres en font? Qui les assure que les autres n'en retirent pas de mauvaises incitations? Ah, et qu'est-ce que vous en savez? Vous ne connaissez pas le fond de la fragilité humaine, digne de quel sang corrompu ruissellent les blessures laissées dans la nature par le péché d'Adam. On revient toujours les conséquences du péché originel. Il ne faut pas vivre dans l'illusion. On est blessé par le péché originel, même s'il n'est pas enlevé au baptême. On est blessé. Oh, combien justement on observait que si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. C'est ce que dit Pie XII en 1941. Alors vous imaginez en 2008. Ô mère chrétienne, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de périls intérieurs, de doutes mal réprimés, de honte mal contenue, vous préparez à vos fils et à vos filles en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts, en leur faisant perdre le sens délicat de la modestie. Vous rougiriez de vous-même. et vous redouteriez la honte que vous faites à vous-même et le tort que vous causez à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Donc, voyez les principes que donne bien Pie XII. Bon, bien sûr, c'est légitime, encore une fois, la mode est légitime, mais il y a des principes. Et attention, donc faites attention pour vous-même. Vous voyez, donc bien sûr, le vêtement décent, ça, c'est, ne soyez pas l'occasion de chute, de tentation. Surtout aujourd'hui, on fait tout pour déshabiller la femme. Hein, c'est clair que faites-y vraiment attention. Et en même temps, là, Pie XII a parlé un peu, c'est le problème de la pudeur. Je pense que ce problème serait résolu si vraiment on cultivait en nous cette vertu de pudeur. Bon, si vous voulez, vous avez la vertu générale qu'on appelle la vertu de tempérance. Qui met un frein aux choses qui flattent les sens. Dans cette vertu de tempérance, on distingue donc la chasteté qui nous permet de vivre qui soumet donc notre concupiscence à la loi de la raison en fonction de notre état, célibataire, marié ou veuvage. Et justement, à la chasteté se rattache cette vertu de pudeur qui va régler les actes extérieurs qui sont capables d'exciter justement au plaisir des honnêtes. Donc cette vertu de pudeur règle ces actes, hein, cette tendance. Et dans cette vertu de tempérance, vous avez justement ce qu'on appelle cette vertu de modestie. Hein, modestie qui va régler notre maintien, notre limite convenable, hein, mouvement intérieur-extérieur. Donc la modestie extérieure va régler justement les mouvements du corps, va régler les mouvements des vêtements. Donc je crois que la vertu de pudeur, justement, consiste à éviter toute occasion d'impureté, donc pour soi-même et pour les autres. Et elle comporte une certaine retenue, une certaine réserve, une certaine modestie, si vous voulez, dans la vie entière, que ce soit dans les pensées, les regards, l'attitude, les tenues, les lectures, les divertissements, etc. On peut dire que la pudeur est vraiment la prudence de la chasteté. Si on veut rester chaste, et on le doit dans notre état où on se trouve, eh bien la pudeur protège la prudence de cette vertu. Donc elle consiste à prendre un peu les précautions, sans lesquelles il est pratiquement impossible de prévenir les passions désordonnées, chez soi ou chez les autres. Alors comme toujours, la pudeur comporte un juste milieu. On peut pécher par excès, dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle la pudibonderie, une espèce de puritanisme. Oh, la jupe est 3 cm au-dessus de la cheville, ah, péché mortel. Ah, c'est excès. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très fréquent aujourd'hui. On ne pêche pas vraiment par excès dans ce domaine-là aujourd'hui. Bon, mais on peut pêcher par défaut, ce qui est le manque de pudeur, évidemment. Donc, c'est déjà un peu plus fréquent aujourd'hui. Bien sûr, il existe une pudeur instinctive, qui est disposition naturelle, qui constitue d'ailleurs le meilleur fondement de la vertu. Donc, il faut la cultiver, cette vertu. Et c'est important, je pense aussi, surtout les mères de famille, de la cultiver chez les enfants. Ça s'apprend. Vous savez très bien que les petits-enfants, c'est pas forcément inné, cette vertu. Eh bien, ça s'acquiert, ça s'apprend par des habitudes. Et là aussi, il faut du bon sens. Bon, je vous ai dit, ayant été quelques années quand même dans une école, eh bien, on le voyait, quand on surveillait les dortoirs, etc., on peut le voir, je peux vous dire, dans telle famille, eh bien, l'enfant est bien élevé, on lui a appris la pudeur. Dans une autre famille, visiblement non, etc. De par la tenue de l'enfant, ça se voyait tout de suite. Eh bien, ça, c'est à la mère de famille, aux parents, de l'apprendre. Et là, il y a du bon sens, là aussi. Effectivement, on entend un peu de tout, mais c'est clair que si les parents se lavent avec leurs enfants, bah, je suis désolé, c'est pas comme ça que vous allez apprendre la pudeur à vos enfants. Je suis désolé, mais non, on prend pas de bain, on prend pas de douche avec ses enfants. Non, c'est pas comme ça qu'on apprend la pudeur aux enfants, c'est clair. Et Monseigneur Lefebvre disait, lui, comme missionnaire, il disait, on reconnaissait tout de suite un village chrétien d'un village païen. Il disait, c'était facile, c'est que dans le village qui avait été christianisé, eh bien, les gens étaient habillés. Et dans les villages païens, les gens ne l'étaient pas. Il disait, ça, on voyait tout de suite. Ça, c'était un signe de savoir où on se trouvait. Il y a un très beau texte aussi du Père Calmel là-dessus, sur le vêtement. Quand vous le trouvez, bon, je ne sais pas, j'ai qu'une référence, c'était dans un dossier spirituel du pèlerinage de Pentecôte 2002, Sauvons l'enfant. Il y avait ce pèlerinage, le thème était Sauvons l'enfant. Et dedans, il y a, je ne sais pas d'où c'est tiré, mais il y a un texte du Père Calmel sur le vêtement. Un très beau texte, enfin, je vais lire juste peut-être quelques parties qui peuvent vous aider. Nous n'allons pas évidemment mettre en problème qu'une façon honnête et modeste de s'habiller ne fasse honneur à la femme, n'aide à sa pureté et à la pureté de ceux qui l'entourent, ne soit voulue par le Seigneur et son Église. Ce dont il s'agit, c'est de faire sentir que le déshabillé des modes actuels constitue un déshonneur pour la femme, une tentation pour les hommes et offense véritablement le Seigneur. Il n'est sans aucun doute très grave que les femmes et les jeunes filles ne sentent plus ces choses, ou du moins qu'elles fassent semblant de ne plus les sentir. L'insensibilité en ces domaines, si grave et si élémentaire, prouve que chez elles, quelque chose de foncier a été atteint et plus ou moins faussé ou détruit. C'est le sens même de la pudeur qui est affaiblie ou annihilée. Normal pour des raisons d'hygiène et dans le mariage, la dénudation du corps dans l'un et l'autre cas reste d'un caractère privé et n'a pas à être publique. Exhiber en public ce qui est en rapport immédiat avec le secret du don le plus personnel et le plus vulnérable, c'est une odieuse profanation. Il est devenu courant de dire « ce n'est pas une profanation du tout, c'est simplement une affaire de convention sociale ou de commodité ». Quelle imposture ! Comment ose-t-on prétendre que le secret et la réserve dans ce qui est ordonné à l'expression charnelle de l'amour n'est pas une exigence personnelle et que c'est la société qui a ainsi convenu ? Comment n'arrive-t-on pas à avouer qu'il existe une différence du tout au tout entre la couleur du vêtement, par exemple, qui est affaire de pure convention, et l'absence en public de vêtements, ou ce qui est pire, l'usage d'un vêtement dont la fonction propre est de déshabiller la femme ou la jeune fille et de faire ressortir sa nudité. Comment se fait-il que la femme ou la jeune fille au XXe, XXIe siècle se montre si facilement déshabillée en public, ou pour mieux dire, habillée d'un vêtement qui la met à nu ? Inconscience ? En partie peut-être chez quelques-unes, chez les plus jeunes. Entraînement de la mode et consentement à l'ambiance ? Vanité plus ou moins naïve ? À coup sûr et pour un grand nombre. En effet, pourquoi la vanité se manifeste-t-elle par un vêtement équivoque ? Sinon parce que la vanité se mêlait déjà d'un sentiment trouble. Et par ailleurs, si on s'est laissé entraîner, il fallait bien que quelque chose ne résiste pas à l'entraînement. Ce qui fléchit, c'est le sentiment du sacré de l'amour et de ce qui s'y rapporte, le sentiment de la pureté du corps. La véritable raison est celle-là. C'est parce que beaucoup de femmes et de jeunes filles n'ont plus le sens de la pureté, se considèrent sans respect et acceptent leur profanation qu'elles se laissent entraîner par des modes honteuses. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai ? Pour réagir, pour obtenir cette chose élémentaire que la femme paraisse en public décemment habillée, on ne peut plus compter sur l'ordre imposé spontanément par une société saine. La personne n'a plus grand-chose à espérer du milieu. Elle ne peut guère compter que sur elle-même et sur la grâce de Dieu. C'est sûr, aujourd'hui, vous ne pouvez plus tellement compter sur la société, c'est clair. En dehors d'une pureté très personnelle, très consciente, très résolue, on voit mal ce qui amènerait femmes et jeunes filles à être honnêtes dans leurs vêtements et leurs tenues. Qu'elles prennent donc conscience qu'elles sont sacrées et que le vêtement est chose sacrée, alors seulement elles cesseront de faire comme tout le monde. Elles se risqueront à établir une coupure rigoureuse avec une ambiance et des usages qui généralisent la profanation. C'est très bien dit, c'est vraiment remarquable. Oui, donc si vous voulez, ça suppose de votre part une vertu, c'est vrai. Une vertu peut-être plus forte qu'au siècle dernier, c'est vrai. Mais il faut cultiver cette vertu de pureté. Et comme la prise de conscience personnelle est grandement aidée par l'éducation, que les mères de famille se rendent compte enfin, avec leurs tout-petits, que la pureté commence à cet âge-là. Elles se préparent ou déjà se détruisent par les habitudes qu'on leur donne de se tenir ou de s'habiller. Il ne s'agit pas d'être bégueule. Il s'agit de savoir que dans les attitudes qu'on fait prendre ou qu'on laisse prendre au tout petit enfant, le vice ou la vertu sont déjà tracés et préformés, notamment l'impureté ou la pudeur. Nous avons été rachetés à grand prix, glorifions et portons Dieu dans notre corps même et dans notre manière de nous vêtir. Je crois que tout est dit. Je crois qu'il faut essayer ensuite effectivement de ne pas se laisser influencer par ce qu'on peut dire. Donc, tout ce que je vous ai dit au départ, soyez une femme chrétienne, tout simplement. qui entraîne les autres au bien. Bon. Ça va, je suis encore vivant. Bon, après, il y a effectivement d'autres bon, renouvelés mondaines, je passe. Hein. Bon, les vertus à pratiquer, là, je vous laisse voir entre vous, enfin, avec votre confesseur. Lapsus révélateur. Disons, entre vous et Dieu, voilà ce que je voulais dire. Et avec éventuellement votre confesseur et le prêtre qui vous suit, quelles sont les vertus dont vous avez le plus besoin? Alors, il y a rapidement quand même, c'est noté la charité à l'égard du prochain. Non, c'est pas marqué là-dessus, mais moi c'est marqué chez moi. Ah, si, charité fraternelle. Et là, là aussi, c'est peut-être, ça peut arriver que ça soit un défaut aussi relativement féminin qui peut se produire. Bon, les calomnies, les médisances, les critiques. Ouais, tiens, un tel fait ça, vous savez, j'ai appris que. Enfin, bref. Bon. Attention, médisance, calomnie. Parce que, bon, c'est ce que c'est que la calomnie, c'est l'imputation au prochain des défauts qu'il n'a pas ou des fautes qu'il n'a pas commises. Donc, on impute à quelqu'un une faute qu'il n'a pas faite et puis un défaut qu'il n'a pas. Il peut y avoir aussi calomnie quand on exagère les défauts ou les fautes, parce que c'est faux. Ou alors on interprète en mauvaise part des paroles ou des actions, ou on nie les bonnes actions, etc., ou on le diminue. La calomnie, elle blesse la vérité, parce que c'est un mensonge. Elle blesse la charité, parce qu'elle a la source, la haine du prochain. Et elle blesse la justice, parce qu'on enlève à autrui eh bien, son honneur. Donc ça peut être grave, évidemment. Si c'est matière grave, si on détruit la réputation de quelqu'un, oui, ça peut être matière grave. Donc il peut y avoir faute grave. Donc on est obligé de réparer, évidemment, en rétractant les mensonges, etc., ou en dédommageant le prochain si on ne lui a fait subir des dommages. La médisance, elle, c'est l'injuste manifestation d'un défaut caché ou d'une faute secrète du prochain. Attention, injuste. Il y a des cas où on doit révéler, pour le bien de la famille, de la société, si quelqu'un a un comportement mauvais, vraiment qui peut nuire. Bon, là, dans ce cas-là, il peut y avoir des cas où on doit révéler. Mais autrement, non. Bon, si cette faute, elle est connue, elle est publique, elle est notoire, bon, il n'y a pas de faute à le dire. Que M. Sarkozy soit en état de concubinage public, c'est pas une faute de le dire, c'est public. Bon, mais attention à ne pas révéler quelque chose de secret. Et là aussi, ça peut être quelque chose de grave. Si c'est une faute grave et qu'il n'y a pas de raison de les révéler, ça, on peut faire une faute grave. Donc là aussi, on peut être obligé de le réparer. Alors, on peut pas dire que j'ai menti, parce que ce n'est pas vrai. On a dit une chose vraie. Alors, comment faire? Vous savez que Philippe Néri prenait l'exemple de la poule. Il demandait à une de ses pénitentes, comme pénitence, vous allez prendre une poule et vous allez la plumer. Bon, très bien. Et vous venez me revoir. Pénitence, vous tuez une poule, vous plumez la poule, etc. Et puis ensuite, il vient voir. Ben maintenant, toutes les plumes que vous avez enlevées, vous les jetez par la fenêtre. Ah bon. Alors, pénitence, elle jette les plumes par la fenêtre. Et puis ensuite, troisième fois, ben maintenant, comme pénitence, vous allez les ramasser. Ben je peux pas. Ben, ça s'est envolé au vent et tout. Et ben voilà. Comment voulez-vous réparer une médisance? Les paroles, elles sont envolées. Donc attention. Bon, qu'est-ce qui ensuite? Bon, après, vous voyez les vertus, donc il y a certainement beaucoup de choses pour vous. Se faire un emploi du temps, ça aussi, ça peut être utile. Hein, fixer l'heure. Si vous voulez vous lever, il faut d'abord fixer l'heure du coucher. Hein, parce qu'évidemment, ça dépendra. Il faut un certain nombre d'heures quand même de sommeil. Donc si vous voulez vous lever, je ne sais pas, 6h30, 7h, 8h, enfin, ça dépend de votre parti, et vous voulez faire oraison avant, ben, il faudra peut-être se coucher une demi-heure plus tôt. Hein, donc évidemment, profite, il faut le faire. Ensuite, bon devoir envers la famille. Il y a quand même quelque chose d'important pour les époux. Ça aussi, sachez, bon, de temps en temps, soyez épouse et mère. Mais n'abandonnez pas l'un ou l'autre. s'il y a, ça se rencontre, hein, il y a des épouses qui ne sont qu'épouses. Ah, mon petit mari, elle en a que pour son mari. Et puis, elle néglige l'éducation des enfants. Bon, ça, il y a un désordre. Et puis, l'inverse. Oh, me casse pas les pieds, maintenant, j'ai mes enfants, hein, toi, tu te débrouilles, moi, je m'occupe des enfants. Non, vous êtes aussi épouse. Hein, donc, n'abandonnez pas l'un et l'autre. Vous êtes épouse et mère. Hein, donc, faire les deux. Puis, entre époux aussi, souvent, il y a bien des... peut-être des frictions qui peuvent exister, qui n'existeraient pas si... il y avait ce fameux, ce qu'on appelle ce devoir de s'asseoir, donc de se parler, savoir se parler. Une fois que les enfants sont couchés, bon, ben, on s'assoit, on parle ensemble, on s'échange. Et peut-être qu'il y aurait beaucoup de soucis qui seraient évités. Parce que quand on ne se parle pas, eh bien, on commence à imaginer ce que l'autre peut faire, etc. Ou alors on se fait des fausses idées. Ou... bref, donc là aussi, pensez-y à ce niveau-là. Et puis, devoir d'éducation chrétienne, bien sûr, aux enfants. Bon, je crois qu'il y aura une instruction sur les écoles, donc on vous en parlera certainement. Mais c'est évident, c'est un devoir important. C'est la fin première du mariage. La fin première du mariage, bien sûr, c'est la procréation, mais c'est aussi l'éducation. Les enfants, c'est pour les élever et en faire de bons chrétiens. Donc, il y a des devoirs de la part des parents. Voilà, puis ensuite, formation religieuse, ben, je vous laisse lire par vous-même. Et puis, des actions, si vous avez des idées aussi, d'aider... faites-le, hein, c'est très bien. Que ce soit de l'aide véritable. Je me rappelle, là aussi, où bon, la personne était pleine de bonnes intentions. Bon, aussi, quand j'étais à l'époque à l'école, à Saint-Malo, il y avait une parent d'élève qui m'avait dit, bah, tenez, pendant un oui, je dois attendre mon fils. Bon, est-ce que je peux vous aider, etc. Je dis, bah oui, pas de problème, voyez, avec personne. Et puis j'arrive, je sais pas, une demi-heure après, dans notre salle à manger. Qu'est-ce que tout était par terre. Elle avait vidé tous les placards, toute la vaisselle, tout était par terre. Ah, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Puis surtout, c'était un jour où il y avait de la sortie, donc on était allé de prix. Ah, j'ai dit, mon Dieu, bon, bah écoutez, madame, c'est très bien, mais vous allez me remettre tout ça dans la... Enfin, bref. Puis l'autre jour aussi, une autre fois, c'est pareil, c'était, elle avait voulu laver l'entrée. Bon, c'était un jour de sortie, alors pareil, donc les gens passent. Et en plus, c'était humide, c'était pluvieux. Alors, non seulement on s'était essuyé sur le paillasson, donc ça allait, mais ensuite on rentrait sur un sol qui n'avait pas pu sécher, parce qu'en Bretagne il fait un peu humide, ça arrive de temps en temps. Alors, on remarchait sur un sol, et puis on en remettait partout. C'était... bref, enfin, l'intention y était, c'est certain, mais dans la pratique, c'était la catastrophe. Bon, donc si vous apportez votre aide, si possible que ce soit une aide véritable, mais faites-le, bien sûr, rendez service dans la mesure de vos possibilités. Bien. Voilà, bien maintenant, je crois qu'il nous reste à tout simplement terminer la retraite pour revoir tout ça devant le bon Dieu. Je vous ai donné peut-être quelques idées, je me suis allongé peut-être un peu trop sur certains points, mais voyez ça devant le bon Dieu. Vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je change? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ma vie pour progresser, pour éviter ce qui est mauvais et ainsi arriver vers vous?